RMC jusqu'à 10h.
Votre auto.
François Sorel.
Jean-Luc Moreau.
Effectivement, 8h10, le retour de votre week-end des experts. J'espère que vous passez un bon moment avec nous. Toujours vos 3 heures d'auto, comme chaque dimanche. On est là avec Jean-Luc jusqu'à 10h. Avec tout à l'heure un petit focus sur la saison 5 de Wheeler Dealers qui débute bientôt sur RMC Découverte. L'essai de la semaine, ce sera la Mini i, la Mini électrique qui, sur le papier, est séduisante. Jean-Luc l'a testé, il va nous dire tout à l'heure ce qu'il en pense. Maître Alors, Rémi Jossomme.
J'ai perdu deux plombages.
Vous avez perdu deux plombages?
Ouais, bah oui.
Eh oui. Maître Rémi Jossomme sera là aussi dans quelques minutes. Nous allons le réveiller gentiment. Écoutez bien l'histoire que va nous raconter tout à l'heure Maître Rémi Jossomme. Et imaginez, vous voulez vendre votre voiture, vous la prêtez à quelqu'un, enfin en tout cas, non, même pas vous la prêtez. Vous la confiez à quelqu'un pour l'essayer.
Oui, il l'essaye. Quelqu'un vient acheter votre voiture.
Oui, c'est comme si vous la prêtiez.
Il l'essaye.
Et il revient pas.
Et il revient pas.
Qu'est-ce qui se passe?
Pourquoi vous ne montez pas à côté? Mais s'il vient, par exemple, avec sa compagne.
Et qu'ils veulent tous les deux faire un petit tour.
Ils veulent faire un petit tour, mais il n'y a que deux places dans la voiture.
Eh oui, qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas venir sur le toit, dans le coffre. Eh bien voilà, on en parle dans quelques instants. Et puis à 9h, on fera le point sur le véhicule autonome. C'est vrai qu'on en a beaucoup, beaucoup parlé ces dernières années. On sent que, évidemment, l'enthousiasme du début n'est plus là. On fera le point malgré tout sur les avancées technologiques du véhicule autonome. Et quand est-ce que ça arrivera vraiment?
Les avancées technologiques et les avancées réglementaires.
Qui est le gros problème.
Parce que pour le coup, le cadre réglementaire, lui, il a bien évolué. On a le droit aujourd'hui en France de faire rouler des voitures autonomes, ce qui n'était pas le cas il y a 2 ans.
Oui. On fera le point donc, ce sera à partir de 9h. Mais d'ici là, vos questions en priorité, le 32-16 pour nous joindre. Et posez votre question à Jean-Luc Moreau, 32-16, l'appli RMC Direct Studio. Et on attaque tout de suite cette deuxième partie avec Gilles. Bonjour Gilles.
Bonjour.
Bienvenue Gilles de la Loire.
Bonjour Gilles.
Merci. Oui, bonjour. Merci de me venir un petit peu en aide. Je possède une C4 HDI, une 1600 HDI sans réchaud avec une boîte AT6. Donc, j'en suis vraiment enchanté. C'est confortable, ça ne consomme pas trop, enfin bref. Et j'ai un problème avec le réservoir d'AdBlue, ou réservoir durée, qui est défectueux.
D'accord.
Lors de la dernière révision qui a été effectuée en septembre, là, cette année, mon garagiste m'a indiqué que le réservoir était défectueux. Il m'a conseillé d'envoyer une lettre commandée à Citroën, ce que j'ai fait. Mm-hmm. Et un mois après, j'avais pas de réponse de Citroën et subitement, dans la semaine, ça s'est déclenché.
Ils ont plutôt intérêt parce qu'en fait, c'est un problème connu. Elle est de quelle année, votre voiture? Elle est de quelle date exactement?
Alors, elle date de 2016, elle est de juillet 2016.
Ouais,
elle a 75 000 km actuellement.
D'accord, parce que tous les modèles jusqu'au, alors c'est précis, hein, jusqu'au 15 avril 2018 sont concernés par ce problème de réservoir d'AdBlue défectueux qu'il faut remplacer. Donc, ils peuvent difficilement dire que c'est un cas isolé, votre voiture, puisque, alors, c'est pas généralisé sur tous les modèles jusqu'à cette date-là, hein, heureusement, mais beaucoup de modèles sont concernés. Donc, comme c'est un problème connu, ça doit passer dans ce qu'on appelle la fameuse garantie des vis cachées. Vous savez que la garantie des vis cachées, elle est limitée maintenant à 5 ans par la loi. Donc, 2016, c'est bon, on est encore dedans. Vous avez bien fait de vous en occuper tout de suite. Bon, d'ailleurs, je pense que votre garagiste a eu le bon réflexe. Il a été plutôt sympa, parce que d'habitude, ils ont tendance à nier ce genre de problème. Là, c'est lui qui vous a conseillé de renvoyer un courrier. Ils vous disent quoi dans ce courrier, d'ailleurs?
Alors, mon garagiste, c'est un garage Peugeot. J'avais acheté cette Citroën chez Peugeot et il m'a bien laissé entendre que Peugeot et Citroën diversifiaient leurs problèmes. Hein. Chacun les leurs, apparemment. Donc, il a fallu que je me retourne vers un garage Citroën.
Ouais.
Je suis client, j'ai acheté 6 ou 7 Citroën en 10 ans. Donc, j'attends de sa part d'ailleurs un devis, mais
de remplacement du réservoir. Mais ils vous répondent quoi, la Citroën? Vous m'avez dit, j'ai eu des nouvelles semaine. Ils vous disent quoi?
Voilà, je vais vous dire ça. Seconde, je suis en train de chercher le courrier. Ça, j'avais oublié. Le courrier, je l'ai eu le 21 octobre.
D'accord. Vous l'avez lu quand même. Ils vous prennent en charge ou pas le remplacement du réservoir?
Non, ils disent rien à ce niveau-là.
Bah,
ils veulent la copie de la carte grise. Ils veulent une facture et un numéro de téléphone ou un email.
Vous avez.
Comme ils disent rien.
Ouais. Alors, est-ce que tous les entretiens ont été faits régulièrement sur la voiture? Parce que ça, il faut faire attention.
Complètement.
Vous avez un carnet d'entretien qui est à jour?
Tout à fait.
Voilà. Bon. Donc, il faut demander. Là, il faut être ferme, hein, sur ça. Hein. Il faut demander 100%. Hein.
Oui, il y a parce qu'on pas... entend que le réservoir a été pris en charge, mais pas la main-d'œuvre.
Après, il faut demander, il faut demander une prise en charge à 100%. Là, on est typiquement vraiment dans le vice caché. En plus, votre voiture, vous ne pourrez plus vous en servir à partir du moment où il n'y aura plus d'AdBlue, que l'AdBlue ne pourra pas être injecté. Vous ne pourrez plus démarrer le véhicule. Donc là, ça devient, un vrai problème.
Complètement, ouais.
Vous avez, est-ce que avec votre assurance, vous avez une protection juridique ou pas? Vous le savez?
Faut que je consulte.
Alors, regardez votre contrat d'assurance. Si vous avez une protection juridique, ça vaut le coup de faire faire un petit courrier par un avocat. Ça a toujours plus de poids. Vous avez déjà fait le nécessaire. Il fallait faire le recommandé en premier. C'est ce que vous avez fait. C'était très bien. Maintenant, la deuxième phase, c'est de montrer un peu les dents. Et là, ils vont se rendre compte que, effectivement, ils doivent céder. C'est une négociation, comme je dis depuis toujours, une négociation de marchand de tapis.
Oui, c'est
mais vous êtes obligé d'en passer par là, malheureusement.
Gilles, merci pour votre appel. Jean-Luc, il est 8h16. Maître Rémi Jossaume, le seul, l'unique, est avec nous en ce dimanche matin. Bonjour maître.
Bonjour François, bonjour Jean-Luc.
Bonjour maître Rémi. Voilà, alors histoire...
Bien réveillé maître, comme à chaque fois on vous pose la question, ça va?
Bien sûr, est-ce que j'ai l'air de ne pas être réveillé?
Non, vous avez l'air d'être en pleine forme, comme à chaque fois d'ailleurs. Comme à chaque fois.
Bon, mais vous vérifiez à chaque fois quand même, François.
Ah bah écoutez, vous savez, on prend soin de vous avec Jean-Luc. Ah, je vois. Bah,
et oui, pourtant oui. Rémi a eu des mauvaises nouvelles cette semaine. Hein. Il a encore un client qui est parti en cabane.
C'est vrai?
Ah ouais, bah ouais, c'est terrible. Hein.
C'est dingue ça.
Bon. Voilà. C'est pas sympa d'en parler,
Jean-Luc. Non, j'en remue le couteau dans la plaie, je sais. Bon, alors Rémi, François décide de vendre la Fuego. Enfin, il y a un type qui se pointe, il part avec, il revient pas. Alors, ce qu'on disait tout à l'heure avant l'émission, c'est qu'il peut être tombé en panne, hein, ça c'est clair. Mais bon...
Maître, ne rigolez pas comme ça, s'il vous plaît.
Typiquement, vous faites essayer votre voiture qui est à vendre par un acheteur potentiel, il se barre avec. Problème, quoi.
Bon, déjà, est-ce que ça arrive, ça?
Ah oui,
ça... C'est arrivé au moins une fois, puisque c'est allé jusque devant la Cour de cassation. C'est vraiment l'histoire malheureuse, mais j'allais dire qu'il pourrait presque arriver à tout le monde. C'est effectivement l'histoire, vous l'avez raconté, Jean-Luc, c'est l'histoire de celui qui vend son véhicule et qui vraiment, en toute naïveté, va le laisser à disposition de son futur acquéreur, qui en réalité va se révéler être son futur voleur, puisque celui-ci va démarrer le véhicule. Bien sûr, installé au volant du véhicule, il part faire l'essai, mais l'essai dure suffisamment longtemps pour qu'en réalité, il ne revienne pas et que le vendeur se trouve contraint et forcé de déclarer auprès des services de police et de gendarmerie un vol de véhicule. Bon, jusque-là, effectivement, dans la notion que tout le monde peut avoir, c'est un vol, juridiquement, ce n'est pas un, justement. Et c'est ça le problème, c'est que ce n'est pas un vol, et c'est ce que l'assureur va expliquer au vendeur, ce n'est pas un vol parce qu'il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu de menace, il n'y a pas eu de soustraction frauduleuse sans la conscience du vendeur. En d'autres termes, et c'est pour ça que la justice a donné raison à l'assureur, donc la personne n'a pas pu être indemnisée, parce que simplement la personne a laissé bien évidemment les clés sur le véhicule et a tout simplement laissé l'acquéreur potentiel, l'essayeur, partir avec son véhicule sans prendre aucune autre précaution. Donc on ne rentre pas en réalité dans la notion donc de vol, hein, comme je le disais. On est éventuellement dans ce qu'on appelle l'abus de confiance ou dans l'escroquerie. Mais justement, soyez très vigilants parce que les contrats d'assurance, d'une manière générale, hein, je fais une généralité, mais il faudra lire vos contrats d'assurance, les contrats d'assurance ne prévoient pas l'indemnisation lorsque le véhicule disparaît à la suite d'un abus de confiance, d'une escroquerie. Alors l'escroquerie, ça peut être aussi l'usage d'une fausse qualité, ça peut être aussi des manœuvres concernant la présentation de faux papiers, etc., etc. Donc il faut être très vigilant quand on lit son contrat d'assurance, parce que le vol, c'est pas la notion que monsieur et madame tout le monde ont de ce que pense être le vol. Le vol, c'est pas simplement l'objet qui disparaît. Voilà. Donc soyez très vigilants, cette personne, malheureusement, donc, n'a pas été indemnisée. La justice a donné raison à l'assureur.
Rémi, alors je vais extrapoler d'autres cas. j'ai une société qui se propose de déplacer mon véhicule d'un point A à un point B. Pareil, le véhicule disparaît. Même chose. J'ai un ami indélicat que je crois être un ami. Il se barre avec ma voiture. Je la revois pas. Même chose. On est d'accord que à chaque fois qu'on prête son véhicule, en aucun cas il peut être déclaré volé puisqu'on l'a prêté.
Non. Enfin, en tout cas, ce n'est pas un vol au sens juridique du terme. Mais ça va être aussi, par exemple, Jean-Luc, c'est pas très joli, mais dans le cadre familial, c'est votre frère, c'est votre enfant, c'est je ne sais qui de votre cercle familial qui vole votre véhicule, on va dire, entre guillemets, eh bien, il n'y a pas de vol entre membres de la même famille. Donc, c'est extrêmement délicat. Alors, la problématique, c'est qu'est-ce qu'on fait désormais, effectivement, lorsqu'on vend un véhicule. Alors, moi, j'ai bien une solution, c'est de demander à Jean-Luc Moreau d'être là, présent, et de le mettre dans le véhicule, comme ça, on est sûr que l'essayeur va ramener le véhicule.
Ouais. On attache la laisse derrière, il fait waf waf s'il voit que ça va trop loin.
Non, mais c'est-à-dire qu'il faut prendre toutes les précautions du monde. C'est-à-dire qu'en réalité, mais c'est la réflexion que je me faisais tout à l'heure, c'est qu'en fait, ça devient vraiment un sacerdoce de vendre son véhicule à un particulier. Parce que entre les risques d'agression, les risques donc de manoeuvres frauduleuses, les risques d'impayés, de virements frauduleux, de chèques volés, de tout ce que vous voulez, ça devient vraiment, vraiment une épreuve de vendre à un particulier son véhicule. Donc il y a des précautions à prendre. Alors, par exemple, pour une moto, certains, on le voit sur les annonces, il n'y a pas d'essai. Voilà, vous l'achetez en l'état, vous partez avec, il n'y a pas d'essai de la moto.
Ce qu'on peut faire si on a une deuxième moto, c'est suivre celui qui essaye la moto.
Ou monter derrière, effectivement.
Accrocher une chaîne à la moto.
C'est prendre aussi peut-être toutes les pièces d'identité, de les conserver, de photographier le véhicule avec la personne avec lequel il est venu, etc. Enfin, c'est pour ça que je vous dis vraiment, quand vous êtes trop naïf, et parce que attention, les escrocs sont toujours très sympathiques, c'est souvent une distinction par rapport aux autres qui est commune.
François, il est sympa comme ça.
Les noms d'escrocs sont sympas aussi, je vous rassure.
Merci Rémi.
Bon voilà, donc soyez vigilants quand il y a une vente de véhicules, et essayez d'être accompagné aussi, essayez en amont de prendre plein de renseignements sur la personne qui vient, vous avez son portable, si c'est un numéro, vous savez, un mobile qui est à carte, soyez peut-être un peu plus vigilant, essayez vraiment de créer
sécuriser au maximum, puis on monte dans la voiture pour l'essai, on monte dans la voiture si c'est possible, on monte dans la voiture.
Alors là, c'est vrai que c'est un peu ubuesque parce que la personne n'est pas montée dans la voiture. Évidemment, elle a laissé la voiture partir et puis malheureusement, elle n'est jamais revenue.
Tiens, sur Direct Studio, on a une question intéressante de Pascal qui nous dit « Quiz une voiture, confier un voiturier en cas de vol ?»
La même chose, on n'est pas dans le cadre d'un vol puisqu'on est dans le cadre d'un abus de confiance. C'est-à-dire qu'en fait, on a remis un bien pour une finalité particulière, c'est-à-dire que le voiturier doit aller la stationner à tel ou tel endroit, et il en fait un tout autre usage. Donc ça, c'est un abus de confiance, c'est pas un vol.
Ouais, vous imaginez le faux voiturier, le type qui a une casquette voiturier, vous allez dans un resto un petit peu connu, le type est 50 mètres avant le resto, il vous dit je vais garer la voiture, vous allez
bien sûr.
Alors là, Jean-Luc, on est plutôt dans l'escroquerie, c'est-à-dire l'usage d'une fausse qualité. Mais c'est pas que c'est pas en tant que tel indemnisé, c'est pas indemnisé si votre contrat d'assurance ne le prévoit pas. Il y a des contrats d'assurance qui prévoient le vol, l'abus de confiance, l'escroquerie. Très honnêtement, j'en ai pas vu beaucoup. Mais, et puis, s'il n'y en a pas, écoutez, c'est peut-être un point à négocier avec votre assureur. Ou sinon, d'aller voir un autre assureur parce que vous avez des pratiques avec les déplacements de votre véhicule qui sont différents des autres. Donc voilà, soyez très vigilants, relisez bien vos clauses de contrat, c'est pas difficile à comprendre. Et puis, à défaut, vous appelez votre assureur, vous lui posez la question, il va vous répondre.
Merci maître pour toutes ces précisions.
Merci Rémi, bonne journée, au revoir.
Allez, bon dimanche.
Vous avez pris votre café déjà ou vous allez le prendre maintenant ?
Non, pas encore. Petit déjeuner est en train d'être préparé.
Ah, c'est très bien. Bah écoutez, bon petit déjeuner. Vous le méritez maître parce que vous avez été parfait encore une fois.
Allez, bon dimanche.
Bon dimanche. On revient dans un instant. La météo et nous accueillerons Yacine qui va nous expliquer que son garage Renault refuse de réaliser une vidange de boîte automatique. On va rentrer dans les détails.
Je suis toujours étonné.
On va aussi vous inviter à nous appeler, hein, si vous, tout comme Yacine, qu'on va accueillir dans un instant, vous avez des questions auto. 32-16, l'appli RMC Direct Studio. À tout de suite.
RMC jusqu'à 10h.
Votre auto.
François Sorel.
Jean-Luc Moreau.
8h30, le retour de ce week-end des experts. L'automobile jusqu'à 10h avec Jean-Luc à mes côtés. Un bon dimanche à vous toutes et à vous tous. L'essai de la semaine dans quelques instants. Jean-Luc a testé la Mini électrique, la Mini i. Très attendue, cette voiture.
La Mini i.
Et voilà, on va.
Mini i.
On va redémarrer, Jean-Luc, hein, ne vous inquiétez pas. Peut-être une mise à jour, c'est mal faite, vous savez, parfois. Hein. Mais auparavant, c'est Yacine qu'on retrouve tout de suite. Bonjour Yacine.
Bonjour et merci de m'accueillir.
Bonjour Yacine.
Merci. Bonjour. Yacine des Yvelines.
Oui.
Et on vous écoute Yacine, que vous arrive-t-il ?
Alors voilà, je vous appelais suite à votre émission de la semaine dernière dans laquelle vous parliez de l'entretien des boîtes automatiques. Et moi, en fait, j'avais eu un refus de mon garage Renault qui ne voulait pas faire l'entretien de la boîte automatique. Au motif que l'entretien n'était pas préconisé par le constructeur.
Alors, c'est quoi comme boîte, c'est quoi comme voiture déjà, et c'est quoi comme type de boîte automatique que vous avez
Alors,
sur cette voiture?
C'est une Renault Clio de 2002, mais elle fait encore le travail. Elle a 89 000 km.
D'accord.
Elle est utilisée essentiellement sur des trajets urbains.
D'accord. Et donc, c'est une vraie boîte automatique que vous avez dessus. C'est une boîte à convertisseur?
Alors là, techniquement, je ne sais pas, mais c'est une vraie boîte automatique, quoi. C'est avec quatre positions sur le sélecteur, parking, neutre.
Oui. Bon, c'est pas une boîte robotisée, ça n'existait pas de toute façon à l'époque. Donc c'est une vraie boîte automatique. Et Renault vous dit, il y a pas d'entretien. Mais c'est vrai qu'à l'époque, les constructeurs français étaient totalement à la rue en matière de boîte automatique, et ils imaginaient qu'une boîte automatique, ça se vidange pas. Donc c'est complètement ubuesque, hein, c'est le mot. On va reprendre ce que vous avez entendu la semaine dernière. Oui, il faut faire la vidange de votre boîte, 84 000 km, et surtout la voiture, elle a quoi, 17 ans
Elle a un entretien régulier encore.
Non mais attendez, l'huile de la boîte n'a jamais été changée depuis 17 ans. C'est plus de l'huile, c'est de l'eau que vous avez dans la boîte, c'est n'importe quoi. Votre boîte, à mon avis, en plus, elle doit donner des à-coups, elle doit mal fonctionner, et ça, c'est lié en fait à la dégradation du lubrifiant dans la boîte. Dans une boîte automatique, il y a quand même à l'intérieur des pièces qui s'usent, donc l'huile véhicule. Et toutes ces traces de l'usure, il y a un filtre quand même qui est fait pour nettoyer un petit peu l'huile, mais l'huile, elle va s'oxyder, elle va se charger en humidité, donc elle va perdre ses qualités à cause du cisaillement qu'on peut avoir dans la boîte. Enfin, franchement.
Mais du coup, vous conseillez quoi alors?
Mais il y a les centres auto aujourd'hui font des vidanges de boîtes automatiques. Donc, vous regardez sur Internet, vous trouvez un centre auto près de chez vous qui fait ça. C'est une opération qui se fait automatiquement avec des machines. Parce que sur certaines boîtes automatiques, c'est pour ça d'ailleurs que les concessionnaires sont un petit peu réticents. Parce que le protocole, je parle des vraies boîtes automatiques, hein, je parle pas des boîtes robotisées, le protocole est délicat. Il faut, par exemple, sur certaines boîtes, vidanger à une température très précise, au degré près. Donc, ça nécessite d'abord de passer du temps. Et quand on n'a pas l'habitude, on peut faire facilement une bêtise. Et derrière, c'est la vie de la boîte qui est en jeu. Donc.
Et moi, c'est le sentiment que j'ai eu en partant de la concession, c'est qu'ils ont peur de le faire.
Mais évidemment. Évidemment. Alors maintenant, je vous dis, il y a des machines qui font ça automatiquement. Donc là, vous êtes à peu près tranquille, il y a des centres qui font ça. Donc je vous invite à regarder, vous habitez, vous m'avez dit, vous êtes dans quoi
Dans les Yvelines.
Ouais, oui. Il y a même des, alors dans les Yvelines, en région parisienne, il y a des centres qui sont spécialisés sur les boîtes automatiques.
Donc les fameux. Vous en citeriez peut-être un, non?
Alors j'ai pas les adresses là, mais on avait eu, c'était le patron de Getrag, je crois, qui était, c'était ZF. Voilà, c'était ZF. Il y a deux gros fabricants en Europe de boîtes automatiques, qui a Getrag et ZF. Getrag, ils font les boîtes pour les Renault, mais les plus récentes. La vôtre, je sais pas du tout ce qu'il y a sur ce modèle-là. Et ZF, qui fait aussi beaucoup de boîtes sur les voitures allemandes, toutes ces choses-là. Et le patron de ZF qu'on avait reçu et qui nous avait bien répété qu'effectivement on fait la vidange d'une boîte automatique, il faut pas écouter les concessionnaires qui vous disent c'est pas préconisé par le constructeur. C'est vrai. que pendant un moment, même moi, j'avais mis le point sur un truc qui me paraissait dingue, c'était que BMW en France disait il n'y a pas d'entretien sur les boîtes auto, alors qu'en Allemagne, pour bénéficier de la garantie, il fallait faire l'entretien à 60 000 km. Donc, oui, c'est quand même un problème.
C'est étonnant.
Voilà. Donc, ZF qui fabrique les boîtes dit oui, il y a une vidange à faire. Ils ont un centre ZF qui est dans, je crois que c'est le sud de Paris, à mon avis, qui doit être dans le 92 ou quelque chose comme ça. Regardez les adresses, ils doivent faire la vidange, même des boîtes qu'eux n'ont pas fabriquées. Ils ont la technologie qui est suffisante pour faire ça. Mais faites la vidange de votre voiture. Vous allez voir, ça va mieux fonctionner derrière. Ça consommera moins, il y aura moins. Votre boîte va être plus douce. Vous avez tout à y gagner.
Oui. Non, mais j'en doute pas. Bah, écoutez, merci du conseil.
Bah, de rien.
Merci, Yacine.
Dans l'idée que j'avais eue aussi.
Ouais. Et puis surtout, faut faire passer cette idée dans l'esprit des gens, de tous ceux qui nous écoutent, qui ont des boîtes auto. Une boîte auto, c'est comme un moteur, ça se vidange. Voilà. Tout. D'ailleurs, quel que soit le système, s'il y a de l'huile dedans, à un moment ou à un autre, il faut faire la vidange. Voilà.
Exactement. Yacine nous a appelé au 3216. Vous êtes très nombreux à nous laisser vos questions, hein, à la fois au 3216 ou via Direct Studio. N'hésitez pas. Et si vous nous posez votre question via Direct Studio, surtout, ayez le réflexe de nous laisser votre numéro de téléphone. On a parfois de bonnes questions sans numéro de téléphone, ce qui est embêtant parce qu'après, pour vous joindre, ça se complique. Donc, n'hésitez pas. Jean-Luc, on va retrouver maintenant l'essai de la...
Oui. Il y a Pépito qui nous dit, le meilleur, un vendeur Citroën m'assurait que la boîte Aisin qui était montée sur sa voiture était commune avec le moteur et donc qu'elle se vidangeait en même temps que le moteur. Il y a vraiment des mecs qui sont prêts à raconter n'importe quoi. Hein. Donc,
Voilà. On enchaîne avec l'essai de la semaine.
Jean-Luc, on y va.
8h36, l'essai de la semaine, c'est la Mini électrique, donc.
La plus branchée des Mini. Voiture qui a... Elle a du sexe à pile, la Mini, donc là, je serais tenté de dire qu'elle a du sexe avec des piles. Voilà.
Ouais, d'accord.
Enfin, bon, bref. Non, mais le petit côté vraiment rigolo pour le coup, c'est que j'avais essayé en 2008 la première version de la Mini électrique. La Mini électrique en 2008, elle faisait 204 chevaux, elle pesait 1465 kg, elle avait 35 kWh de batterie, dont 28 kWh utiles. C'était plutôt sympa. Alors, il y avait quand même un vrai défaut, c'est que les batteries prenaient toute la place à l'arrière de la voiture, donc c'était une deux places, la Mini électrique.
Déjà qu'on ne veut pas dire que l'espace dans la Mini soit monstrueux. Voilà.
Donc, les 260 kg de batterie étaient en position centrale arrière, donc c'était une Mini deux places. Mais, à part ça, elle était plutôt fun, cette Mini. Et aujourd'hui, version 2020 de la plus branchée des Mini, qu'est-ce qu'elle nous propose ? Elle nous propose une puissance de 184 chevaux, donc elle est un peu moins puissante que la Mini de l'époque. Bon, le couple est un peu supérieur, hein, 270 Nm au lieu de 220 Nm à l'époque. Elle nous propose une batterie qui finalement n'a pas beaucoup plus de capacité. Vous voyez, on est à 28,9 kWh utile. c'est juste énorme.
C'est vrai que c'est
alors, elle a 4 places aujourd'hui. La batterie est dans le sous-bassement.
Elle est lourde,
puisque la voiture
est lourde.
Et ben, elle fait exactement le même poids que la Mini de l'époque. Elle était à 1465 kg.
Ah ouais, c'est un gros bébé quand même.
Et là, on est à 1423 kg. C'est 153 kg de plus qu'une Cooper S. Voilà. Bon, alors.
Quand même.
Alors, déjà, quand on monte dedans, ceux qui connaissent la Mini, ça change rien.
On va dépayser.
Ça reste une Mini, écran tactile qui est simple à manipuler, une myriade de boutons partout. Je trouve ça joli. Alors, c'est pas forcément simple au premier abord, parce que ça nécessite un peu d'habitude pour arriver à repérer quel bouton sert à quoi. Voilà, faut un temps d'adaptation. Mais les habitués de la marque seront pas dépaysés. Et surtout, ce qu'on attend, c'est du fun au volant. Alors, du fun au volant, je vous dis tout de suite, on en a, parce que ça envoie du bois quand même. Je vous l'ai dit tout à l'heure, 184 chevaux, 270 Nm disponibles dès le démarrage.
Oui.
Quand on appuie sur la pédale d'accélérateur, il se passe quelque chose, mais en plus, la voiture reste très silencieuse. Donc c'est vraiment surprenant au départ, parce qu'en général, les Mini qui offrent des performances comme ça, plutôt un bruit d'échappement assez présent, mais là, ça fait pas de bruit, donc c'est plutôt sympa. Alors, évidemment, je vous ai dit tout à l'heure, 1423 kg, ça reste quand même un peu lourd. La direction, moi, j'ai trouvé un peu pesante. Elle est assistée, elle est électrique, bien évidemment, mais elle est quand même un peu lourde pour une voiture qui est à vocation essentiellement citadine. c'est ludique à conduire. Il y a un truc. Alors, on peut trouver ça très bien ou on peut trouver ça pas bien, même s'il y a deux réglages quand même possibles. La décélération au lever de pied est assez importante. Et parfois, on a du mal à le doser. En clair, vous pouvez conduire avec une seule pédale. Donc, quand vous relâchez la pédale d'accélérateur,
la voiture freine vraiment.
Et
un peu comme la Nissan Leaf, en fait.
Un peu comme la Nissan Leaf avec le e-pédale, qui permet même de s'arrêter complètement. Alors, ça peut être un peu déstabilisant au départ quand on n'est pas habitué. En termes de gain d'autonomie, c'est pas forcément
impressionnant,
probant non plus d'ailleurs. Hein. Le meilleur moyen d'économiser l'énergie, c'est justement de la conserver. Donc c'est la roue libre, hein, le meilleur moyen d'aller le plus loin possible, même avec une voiture électrique. Contrairement à ce qu'on peut croire, on se dit si ça récupère plus en décélération, j'irai plus loin. C'est pas le cas, parce qu'il faudra réaccélérer après. Voilà. Donc alors, bon, c'est fun à conduire. Il y a un truc, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que alors une Mini, c'est on n'achète pas une Mini pour le confort Pullman.
Hein. Non, c'est sûr.
Et là, la Mini électrique, évidemment, avec presque 1500 kilos sur la balance, on se doute qu'il a fallu raffermir un petit peu les suspensions. Ça devient quand même un tout petit peu raide et c'est too much. Alors, on va revenir à nos ralentisseurs. Mmh. Alors là, pour
c'est l'enfer.
Si vous habitez dans une région avec beaucoup de ralentisseurs, vous oubliez.
Ou alors une route avec des pavés, des choses comme ça.
La route avec des pavés, ça ira encore à peu près.
Ça va.
Mais le ralentisseur, surtout s'ils ont un angle d'attaque trop important, comme la plupart des ralentisseurs, avec la Mini électrique, ça tape. Mais alors vraiment, ça tape, quoi.
Ça tape,
vous avez l'impression que vous avez tapé dans un trottoir, en fait, à chaque fois. C'est vraiment un des vrais défauts. Alors, le deuxième défaut, c'est, je vous l'ai dit tout à l'heure, la batterie a une capacité de 28,9 kWh utile. On est à 50 kWh sur une Zoé. Mmh. Donc, bien évidemment, l'autonomie, en plus, la voiture est plus puissante. Donc, l'autonomie est sans commune mesure avec celle qu'offrent des citadines traditionnelles électriques. On est à 200 km réels. Ce qui finalement est pas beaucoup aujourd'hui pour une voiture électrique. Donc ça restera une deuxième
voiture. Ou alors une voiture vraiment urbaine.
Une voiture urbaine, d'autant que Mini ne fait jamais cadeau.
Hein.
Ouais, voilà. Mini ne fait jamais cadeau de ses modèles. Et celle-là, 37 600 euros minimum hors bonus, hein. C'est évidemment pas très très raisonnable.
Après, bon, voilà. Est-ce que le choix d'une Mini est raisonnable?
Non.
C'est un choix coup de cœur,
ouais,
etc.
Exactement.
Et je peux comprendre que, la personne qui a envie d'une Mini avec ce choix d'une Mini électrique, ça peut être vraiment quelque chose de pertinent.
Pour celui qui fait principalement de la ville ou du périurbain, c'est la plus sympa des Mini à conduire dans ce domaine-là.
En effet. Et puis en plus, on pollue plus. Voilà, ça c'est cool.
Exactement. Et on peut. Alors, il faut pouvoir recharger chez soi aussi. Hein.
Oui, c'est ça.
Mais la puissance, pareil, hein. On n'en a pas parlé, mais elle recharge que en 50 kW de puissance. Alors qu'aujourd'hui, une i208, ça recharge à 100 kW. Il y a certains véhicules qui rechargent à 150 et il y en a même qui vont arriver à 350 kW. Donc c'est pareil, il y a un petit train de retard.
On revient dans un instant, Jean-Luc. Il est quasi 9h moins le quart. On va poursuivre avec vos questions. On aura Momo qui veut acheter une Porsche 911. Il aimerait savoir s'il peut faire une bonne affaire parce qu'on lui a déjà proposé un modèle.
Eh ben, il m'envoie le chèque et puis je m'en occupe.
32-16, l'appli RMC Direct Studio pour vos questions. À tout de suite.
RMC jusqu'à 10h.
Votre auto.
RMC jusqu'à 10h.
Votre auto.
François Sorel.
Jean-Luc Moreau.
8h46, le retour de votre week-end des experts, l'automobile. Allez, on enchaîne avec vos questions jusqu'à 9h. N'hésitez pas, toutes vos questions auto, 32-16, l'appli RMC Direct Studio. Et c'est Momo qu'on accueille tout de suite. Bonjour Momo.
Bonjour messieurs.
Bonjour, donc alors vous voulez me faire passer un chèque, c'est ça?
D'accord, exactement. Vous voudrez me donner juste votre nom et vos adresses.
Eh ben alors Jean-Luc Moreau, hein, et puis l'adresse, je vous la donne en antenne. Et vous voulez me payer quoi pour Noël comme voiture?
Alors c'est 911 Carrera 4S ou une GTS.
Ah ouais, bien.
Je sais
bien.
Pas quoi la différence qu'il y a entre les deux.
Ah d'accord.
Bah, une Carrera 4, il y a 4 roues motrices, hein. Voilà. Oui. Et la GTS existe en Carrera 4.
Voilà. Et par contre, il y a marqué roue arrière directrice.
Ouais, mais alors, ça changera rien. C'est pas à ça que vous vous attachez. Vous l'avez vu à quel prix cette voiture?
Alors, le prix, elle est à 125 000. Allez, au départ, elle est à 132 000.
D'accord.
Et la personne, elle l'a baissé, et là, il la met à 125 900.
Quel kilométrage? Quelle année?
12 000 km, elle est de 6-2019. Ça, c'est la Carrera 4 GTS.
Carrera 4 GTS, c'est vraiment... C'est une super auto, hein?
Oui, oui.
Vraiment, hein? Ouais, moi, j'adore. Bon, pour ceux qui connaissent pas... Porsche 911, tout le monde connaît, hein, même si on a habité sur une autre planète pendant longtemps, c'est ce que c'est qu'une Porsche 911. Ça, c'est la génération 991, donc c'est la dernière génération. Injection directe, 2 turbos, 450 chevaux, boîte robotisée à 7 rapports. Je ne vais pas vous parler de performance parce que ça serait, voilà, par les temps qui courent pour rouler, c'est suffisant pour rouler à 80 km/h sur les routes secondaires à 2 heures.
Ça suffit. C'est tout, hein.
Oui.
Je roule déjà avec une Mercedes là, pour la semaine, alors ça me suffit juste pour le week-end. C'est un petit plaisir que j'ai envie de me faire.
Ouais, vous avez raison.
Vous avez raison, mais vous savez quoi? Il faut peut-être attendre encore un peu.
C'est ce que je vais faire.
Et pourquoi?
Bah parce que vous avez vu la conjoncture économique aujourd'hui.
Oui, je sais. Ah. C'est pour ça qu'il est en train de la faire baisser.
Et voilà, les voitures de luxe se vendent en occasion très mal. Sur les voitures neuves, ça se vend un petit peu moins bien, mais sur l'occasion, sur ces modèles très chers, ou même sur les voitures de collection, en ce moment, c'est un peu la misère.
D'accord, donc ça vaut peut-être le coup pour Momo d'attendre un peu.
Les prix sont en train de baisser. Je pense qu'en début d'année, il y en a plein qui vont être pendus et qui ont genre de voitures qui les ont achetées pour se faire plaisir, et des fois sur les sociétés, et qui vont être obligés de les vendre. Et
oui.
Donc ça veut dire que les voitures, ils vont les brader. Aujourd'hui, alors le prix là que vous avez vu... c'est dans le prix du marché, hein. C'est pas une super affaire, hein. C'est le prix normal. Mais moi, je pense que ce genre de véhicule, ça va descendre en dessous de 110 000 euros dans les deux mois qui viennent. D'accord. Donc, il vaut mieux attendre.
Après, il faut trouver le bon moment parce que au bout d'un moment, la reprise sera là.
Exactement.
Et les tarifs vont remonter. Il faut trouver le creux de la vague.
Il va y avoir un point bas et on est dans le sens de la descente en ce moment. Oui. Donc, ceux qui veulent se faire plaisir et s'acheter des voitures un peu sympas comme ça doivent attendre encore un peu.
D'accord.
Ils vont au moins.
Par contre, pour le Malus, là, comment que ça se passe, l'histoire de Malus?
Ben vous allez avoir, elle est à quoi, à plus de 210 grammes de CO2. Vous allez avoir. Alors le malus maintenant, il est plus, il est en fonction de la puissance fiscale, je crois. Mais tiens, faut qu'on fasse un truc sur le malus des véhicules d'occasion d'ailleurs.
C'est tellement compliqué.
Mais ça change tout le temps.
C'est dingue.
Ça change tout le temps.
Vous allez le poids des voitures.
Ouais, vous allez avoir 1000 euros, je pense, de malus. Bon, plus le prix de la carte grise après. Hein.
Combien, 1000 euros?
Oui.
Oh, ça va.
Ah, non, c'est sûr pas que catastrophique par rapport à. Vous avez vu ce qui va leur tomber sur le museau, là, ceux qui vont acheter ce genre de voiture à la rentrée, là. C'est 20 000 euros, et puis à terme, ça sera 40 000 euros. Non, pas pour vous, hein, pour les voitures neuves, je parle.
Non,
faites pas une crise cardiaque tout de suite, attendez encore un peu.
C'est ce que j'allais faire, je dis, je vais le faire le chèque tout de suite avant que je tombe, quoi.
Non.
Comme ça, moi, je
serai assuré. Non, attendez encore un peu.
En plus, si vous vous faites mal, allô maman Momo, c'est pas bon, hein, là, franchement.
Alors, si vous voulez vous faire plaisir, je vous dis, soyez patient.
Par contre, comme on ne roule pas beaucoup là, avec ces voitures, qu'est-ce que je veux dire? L'essence qu'il y a dedans, ça peut rester longtemps là, sans qu'on...
Alors, pas trop, parce que l'essence, là, vous allez rouler, enfin, quoi que vous allez rouler avec du super samplon 98, vous avez intérêt à rouler au 98 avec cette voiture-là, il se dégrade un petit peu moins vite que le 95 E10 ou que le 95 normal. Mais... au-delà de 6 mois, on peut considérer qu'il commence à perdre de ses qualités. Donc, si vous roulez vous roulerez au moins une fois dans les 6 mois. Mais pensez à ne pas laisser la voiture trop longtemps sans rouler, ou alors vous mettez ce qu'on appelle un stabilisateur de carburant dans le carburant. Ça se vend, c'est des petits flacons qu'on rajoute dans l'essence.
Merci Momo. Allez, on enchaîne avec Pierre avant de retrouver l'actu de 9h. Bonjour Pierre.
Bonjour Pierre.
Oui, bonjour.
Bienvenue Pierre sur RMC. On vous écoute.
Merci. Eh bien voilà, moi je suis à la recherche d'un SUV en fait d'occasion, et là j'ai trouvé chez un particulier un Qashqai DCI 130 chevaux All Mode de 2016, et je voulais voir ce que vous en pensiez, si c'était un bon choix ou s'il fallait peut-être se tourner vers un autre modèle.
Mais vous avez besoin de 4 roues motrices, vraiment?
Alors, pas spécifiquement, mais c'est vrai que le fait d'avoir trouvé le 4 roues motrices, en fait, si vous voulez, mon chemin, lorsqu'on arrive... chez nous, c'est un peu compliqué.
Ah, bon, donc vous pouvez en avoir besoin.
En avoir besoin ponctuellement.
D'accord.
Voilà, c'est ça.
Non, parce que autrement, trimballer toute l'année un système 4 roues motrices, alors qu'on n'en a pas besoin, c'est un petit peu dommage, d'une part parce que vous allez consommer plus, et puis parce que sur l'entretien, ça se retrouvera un moment ou un autre.
Oui.
Donc c'est pour ça que je vous demandais. Autrement, oui, la voiture en elle-même, avec ce moteur-là, en plus... C'est un moteur, dans les diesels, c'est sans doute le plus fiable qu'on trouve sur ce modèle-là.
Ouais, c'est
Il a combien de kilomètres?
Alors, il est d'avril 2016 et il a 53 000 kilomètres.
Ouais, bon. Et à combien vous l'avez?
Là, actuellement, il a 14 900.
Bah,
là,
oui.
Ça fait un petit moment que le monsieur essaie de le vendre.
Ouais, ouais, bah ouais, alors, non seulement en ce moment, c'est dur, même si l'occasion se vend beaucoup mieux, évidemment, que le neuf, mais. Ouais. C'est un diesel, donc les diesels aujourd'hui un petit peu moins la cote qu'ils ont eu il y a quelques années. Donc c'est des bonnes affaires pour ceux qui, comme vous, vous faites quoi vous comme type de parcours?
Alors ça serait, on va dire moitié ville, mais on va dire extra-urbain, vous savez, un
d'accord,
peu genre voie rapide.
Voie rapide, bon bah alors il n'y a pas de souci.
Voilà, c'est pas du...
Pensez de temps en temps quand même à lui faire faire un petit bout d'autoroute et puis à
rouler avec de l'autoroute.
Ouais, à 3500 tours.
D'accord, ok, bon, super. Voilà. Donc ça serait un bon choix.
Ouais, okay. Ça serait un bon choix.
D'accord, eh bien écoutez, je vous remercie.
Il n'y a pas d'alternative là, Jean-Luc, à ce prix?
Si, mais à 14 000 euros, c'est une bonne affaire à ce kilométrage-là.
Oui.
En 4 roues motrices, en plus, s'il a besoin.
Il n'y a rien à vérifier
de
particulier.
C'est surtout le système 4 roues motrices, je ne connaissais pas.
Non, il est efficace, en plus, il sait faire, hein, vraiment.
Bon, ben ok.
Bon, ben voilà,
eh ben,
Pierre,
super.
Tout est bon.
Ben, merci beaucoup, passez une bonne journée.
Et vous aussi, bon dimanche, Pierre.
Vous aussi, au revoir.
Jean-Luc, il est 9h05, on va revenir dans un instant, la météo, les infos, et on attaquera notre dernière heure dédiée à l'automobile avec vos questions, hein, tout comme Pierre, vous pouvez nous joindre au 3216 ou via l'appli RMC Direct Studio. On va faire un point sur le véhicule autonome, où en sommes-nous avec notre invité.
Ouais, Laurent Hiquet, qui est le directeur général du MAP, c'est l'Observatoire des experts de la mobilité, voilà.
Un constat est-il obligatoire en cas d'accident? Ça sera notre question pas si bête. Et on jettera un œil sur la saison 5 de Wheeler Dealers tout à l'heure. Ça sera notre rendez-vous sur le vif dans moins d'une heure. A tout de suite, météo, info, et on est de retour.
RMC jusqu'à 10h.
Votre auto.